Rachid Marloufi, l'ancien attaquant de Saint-Étienne, mort à 88 ans. Il était un symbole de la lutte pour l'indépendance de son pays, l'Algérie. C'est la fin de ce journal. Merci d'écouter RFI.
Radio G. 101.5 FM.
Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie,
poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou.
Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire sous l'enterre. J'ai choisi un extrait du chapitre 9, intitulé.
Assise près de l'incubateur. Espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du XXe et du XXIe siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Amis auditeurs, bonjour. Nous vous proposons la lecture du premier roman du cinéaste et acteur belge Lucas Bellevaux, né à Namur en 1961. Dans ce roman, l'auteur sonde la guerre intérieure qui ronge les soldats revenus du front. Ce livre est original par sa construction. La parole est donnée à chacun des personnages qui expriment ses émotions.
La vie, la mort, la même chose. L'une et l'autre liées, imbriquées, solidaires. Je connais les deux. Je vis, j'ai vécu. J'ai vu mourir des hommes et, je dois l'avouer, j'en ai tué. Des hommes, oui. De sang-froid, presque. En toute connaissance de cause, en tout cas. J'étais soldat. Au début, j'étais soldat. Plus que ça même. La quintessence. Légionnaire. Képi blanc, l'élite depuis le 30 avril 1863 à Cameroun, Mexique. Admiré par tous ceux qui se battent quelque part dans le monde. Légionnaire, respect. Mercenaire ensuite, soldat de fortune, contractant comme on dit aujourd'hui Blackwater. En Irak, un peu, pas que, ailleurs, avant, pas que des bons souvenirs, pas que des mauvais non plus. La vie quoi. Et la mort aussi, oui. Plus que pour le commun des mortels. Une partie du boulot, tuer, se faire tuer, ou pas. Sans foi, sans passion, sans raison non plus. Sinon le salaire. L'argent, la guerre pour nourrir ceux qu'on aime, un métier comme un autre. On mourait sans génie, on tuait sans frémir. Comme ça, ni chaud ni froid. On en parlait le soir en jouant aux cartes. En buvant de la bière, pas normal ça. Ça laisse des traces. Pas tout de suite. Après. Longtemps après. Quand ceux qu'on a tués viennent nous parler la nuit. Les spectres. Ceux qui marchent en traînant leur boyau, la tête sous le bras, ou qui la cherchent sous nos lits et la réclament. C'est leur vengeance. Ils y ont droit. Normal. Et nos nuits durent plus longtemps que leur agonie. Alors l'alcool, les cachets, les suées, les cris, les réveils en sursaut, le silence autour, car c'est la paix ici. Personne ne meurt sous le tir d'un sniper ou du souffle d'une bombe. Personne ne pleure, sauf ta femme, parce que tu l'as réveillée en hurlant, que tu l'as frappée dans ton sommeil en repoussant tes fantômes. Qu'elle a mal, qu'elle a peur que tu la tues de tes poings sans même t'en rendre compte. Et elle va dormir avec les garçons jusqu'au jour où elle te demande d'aller vivre ailleurs et tu retournes chez ta mère parce que tu n'as que là où aller. Que les copains t'ont déjà hébergé et que de toute façon, eux aussi, on les a mis dehors. Chez ma mère, c'est loin, parce que je suis d'ailleurs, à l'est d'ici, d'un pays qui n'existe plus, autodétruit par ses folies. Chez ma mère, je suis un enfant à qui on reproche tout ce qu'il est, tout ce qu'il a été, tout ce qu'il a fait, et tout ce qu'il n'a pas fait pour en arriver là. Chez ma mère, je suis plein de honte et de larmes, de rancœur et de haine, de moi, des autres, du monde, plein de haine pour elle qui m'a fait ce que je suis. Alors je m'en vais, sans adieu, sans remords, je m'en vais pour ne pas la tuer. Je reviens là où je ne suis rien, où je n'ai rien, sans emploi ni maison, sans raison d'être, sans vergogne. Je vis. Ça veut dire que je bois, que je pisse, que je chie, que je dors, que je mange, parfois, que j'insulte les passants. Je n'ai ni chaud, ni froid, ni faim, ni peur. Je suis un légionnaire. Je me tiens droit. Je vais regarder mes enfants sortir de l'école, cachés, qu'ils ne me voient pas. Pas comme je suis. Moi, je les vois de loin, main dans la main. Le plus grand protégeant le plus jeune. Fier, brutal à l'occasion. Je le sais, on me l'a reproché déjà. Puis je repars d'où je viens, dans mon bois en périphérie de la ville. Là où d'autres comme moi viennent dormir et boire. Boire jusqu'à se battre. Boire jusqu'à mourir. La mort encore. Ma vie. Parfois, au matin, je décide de repartir à zéro. Je me lave, mes affaires, mon corps, arrête de boire pendant 3 jours et m'en vais sonner chez ma femme et mes garçons. Les bons jours, elle me laisse les embrasser, jouer au ballon quelques heures. L'occasion de s'en libérer, un moment, d'aller voir une amie ou un film, de faire des courses ou d'autres choses qui ne me regardent pas. Quelques heures d'espoir où je me trouve beau, désirable, capable de la rendre heureuse et de les rendre fiers, eux. Content d'avoir un père à la maison, comme les autres. Mais non, ils ne sont pas tant à avoir leur père à la maison. Et déjà, elle me demande de partir. Les bonjours, ça se passe comme ça. Les autres, je reste planqué pendant des heures, pas trop loin, pour les apercevoir quelques secondes. Ou alors, elle me chasse parce que ma vue leur fait mal et que, la dernière fois, ils ont eu le cafard pendant des jours. Ma vie. Je pourrais crever, là, sans que ça change quoi que ce soit. Et que je continue de vivre ne change rien non plus. Ma vie, ma mort, la même chose. Je m'appelle Skender.
Je m'appelle Max. Je conduis une Mercedes noire, aux vitres teintées. C'est mon métier. Il n'y en a pas de saut. C'est une limousine silencieuse, automatique. Un cocon où il fait frais l'été et chaud l'hiver. Un écrin voluptueux. Ce qui se fait de plus proche du tapis volant. J'aime cette voiture. J'aime la conduire, la laver, la lustrer. J'aime voir le soleil s'y réfléchir. J'aime ses formes, son odeur. J'aime qu'elle soit lourde et protectrice, puissante et docile. Depuis 8 jours, je n'en suis pas sortie, ou alors à peine, pour acheter de quoi manger ou chasser un chien qui projetait de pisser sur mes jantes. Pour le moment, je roule au pas. Une centaine de mètres derrière celui que je n'ai pas quitté des yeux depuis une semaine, depuis que je l'ai retrouvé 6 ans après l'avoir perdu de vue. Maintenant que je sais tout de ses habitudes, de ce qu'il est devenu, de comment il vit et où je vais pouvoir l'aborder, l'inviter à monter dans la voiture, lui rappeler le passé, la Légion, l'Irak, l'amitié. Je sais qu'il n'a rien oublié, comme moi, parce que ces moments-là ne s'oublient pas. Qu'on les porte en soi pour toujours, qu'on vive avec ou qu'on en meure. Moi, j'ai refusé de mourir ou d'être survivant. Je n'ai pas bu jusqu'à oublier qui j'étais avant, même d'oublier ce que j'avais fait. Non, je refuse d'oublier qui je suis et d'où je viens. Chaque matin, je me regarde dans le miroir et je vois un nègre à la généalogie peuplée d'esclaves qui un jour se sont dressés et libérés de leurs chaînes. C'est leur sang qui coule dans mes veines, Leurs souffrances sont les miennes. Mon histoire est la leur. Je suis leur sanctuaire, leur nécropole. Je les porte en moi. Je n'ai pas le droit de vivre comme un chien. Comme lui, là, qui marche 100 mètres devant. Ou les autres comme lui, qui ne pensent qu'à ce qu'ils vont pouvoir manger ou pas. Au froid qui vient, qui les trouvera sans rien pour se couvrir. Qui parcourront la ville en horde ou solitaire à la recherche de quelques miettes de chaleur et d'alcool, puis qui mourront comme meurent les chiens, seuls sur un trottoir, enjambés par les indifférents, des heures durant, avant que quelqu'un comprenne qu'on les ramasse. Ils mourront anonymes, sans passé, sans avenir, oubliés qu'ils étaient avant même de mourir, morts sans nom, dont personne n'aura à faire le deuil. Cadavres sans postérité, chair sans sève, dans laquelle plus rien ne coule qui fait la vie. Plus de rouge, plus de rose chez les blancs. Plus de ces reflets cuivrés qui brillent sur les peaux comme la mienne. Gris et froid pour le reste du temps qu'il leur reste à être, à refroidir, pourrir et disparaître. Je ne laisserai pas Skender mourir comme ça. Je lui offrirai la mort qu'il mérite. Il aurait dû mourir à la guerre, il aurait mieux valu. Mieux vaut mourir d'une flamme en plein cœur au milieu de ses camarades qui n'oublieront jamais. Et mieux vaut la chair crépitant dans les flammes que cette indifférence, ce froid, ce vide, ce rien. Mieux valent la souffrance et les cris, le dernier sursaut de ce qui est encore une vie. Vivre jusqu'à l'ultime instant, le vivre. Et je ne parle pas de gloire, d'engagement, d'honneur ou de devoir. Rien ne compte à cet instant. Je ne parle que de la dernière goutte de lumière, la dernière étincelle qu'il ne faut pas gâcher. Je l'ai privé de cette mort-là. Il m'en a été reconnaissant. L'est-il encore? Je suis à sa hauteur. J'ouvre la porte. Il me voit, me reconnaît. Il sourit, il monte. Il trouve que j'ai une chouette bagnole. Je lui dis tout de suite que ce n'est pas la mienne, qu'elle appartient à ma patronne. Entre camarades, on ne se ment pas. On ne se fait pas passer pour ce qu'on n'est pas. Nous savons, lui et moi, qui nous sommes. On s'est vu au feu, là où la vérité éclate, la vérité d'un homme. Ça l'amuse que j'ai une patronne, que j'obéisse à une femme. Il ne l'aurait pas cru. Ça ne le choque pas, ça le surprend, c'est tout. Il me demande si je ne crains pas qu'il empuantisse la voiture. Mais non, je ne le crains pas. Ça se traite. Il y a des produits pour ça. De toute façon, il ne sent pas. Je le savais avant de le faire monter. Je savais qu'il s'était lavé. Je ne le dis pas. Ce n'est pas le moment. Pas encore. Je l'emmène déjeuner. Il me remercie. Il sait que je sais. Il a compris. Pas dupe. Il choisit un couscous. Nostalgie de légionnaire. On rit, on mange, on parle. Du passé d'abord, il faut bien renouer, retisser les fils qui nous lient, retrouver ce qu'on a en commun. Pas tout, pas tout de suite. D'abord ce qui fait rire, ce qui réchauffe, ce qui fait le plaisir des retrouvailles. Ça dure, on étire. On ne voudrait parler que de ça. Pas du reste, non. Pas des morts, en tout cas. Et pourtant, il faut bien. Même si je ne sais pas pourquoi et lui non plus. Il faut en passer par là. Parler de ceux qu'on a aimés et qui ne sont plus. Pas de ceux qu'on a tués, non, pas ceux-là. Même si on parle du combat, de l'action, du tir, mais pas de ces morts-là. Nous savons qu'on n'oubliera jamais leur corps dans la visée, secoué par l'impact, le spasme, la silhouette affaissée, le tas de tissus et de chair mêlés, le sang qui s'écoule en ruisseaux. De ça, nous ne parlerons pas. Des autres seulement. Voilà, c'est fait. On a fait court, finalement. Je n'aurais pas cru. Le passé purgé, il faut bien parler du présent. Je sais qu'il n'en a pas envie, alors je commence. On n'a pas beaucoup changé. Les cheveux plus longs pour lui, plus gris pour les deux. Mais à part ça...
Pareil.
J'entends l'ironie dans sa voix. Il n'a pas grand-chose d'autre à offrir. Il sourit encore. Il ne dit rien. Ça permet de ne pas mentir. Je continue. Je me raconte. Il faut bien donner un peu. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Comment définir ce que je suis? Chauffeur? Oui, pas que. bodyguard, majordome, cuisinier, homme à tout faire aussi, mais pas larbin. Pas ça, jamais. Pas gigolo non plus. Madame n'a pas besoin de ça. Pas de besoin de ce côté-là, du tout. Elle est encore jeune pourtant. Et si quelques rides au coin des yeux rappellent qu'elle n'est plus une jeune fille, sa voix est claire. Ses cheveux brillent et sa peau renvoie la lumière aussi blanche qu'elle y est arrivée. Aussi pâle que je suis noire. Mais ça ne compte pas. Pour elle, ça ne compte pas. Enfin, je crois. Non, je sais. Je sens ces choses-là. Madame n'a rien à faire de la couleur des peaux. Elle est riche et veuve. Je suis à son service 24 heures sur 24. Même si je suis libre d'aller et venir comme je veux, quand je veux, je ne le fais jamais. C'est auprès d'elle que je suis bien. Mais je ne vis pas avec elle. Je vis à ses côtés et ça me suffit. J'aime voir les films qu'elle voit, écouter la musique qu'elle écoute, lire les livres qu'elle lit. Car je lis des livres maintenant. Grâce à elle, j'ai appris à ses côtés. Je lui apprends des choses aussi. C'est une vie calme, sans inquiétude. Je me lève à 5 heures, je profite de la salle de sport, puis je me douche, je fais le ménage silencieux, le repassage, les vitres, du rangement jusqu'à l'heure du petit déjeuner que nous prenons ensemble, tête à tête. Je la coach pendant qu'elle fait son sport, on va courir. Ensuite, chacun reprend ce qu'il a à faire jusqu'au repas que je prépare. Léger souvent, mais pas toujours. Il lui prend parfois des envies de gras, de bœuf et de porc, de sucre, de crème, de gâteau. Ces jours-là, je me fais pâtissier, rôtisseur, et nous mangeons sans retenue aucune. L'après-midi, elle marche dans la forêt, tous les sens aux aguets à la recherche d'un cerf, d'un chevreuil, d'une martre ou d'un renard. Elle repère leurs traces dans la boue, leurs coulées dans les feuilles, les arbres marqués par leur passage. Madame adore la nature, les animaux et la chasse. C'est sa passion. On a repris un café. Je savais qu'il n'avait pas envie que la parenthèse se ferme. Il m'écoutait, souriait, commentait d'un mot. Il tardait à me raconter sa vie. Il ne savait pas que j'en connaissais à peu près tout. Il s'est amusé du hasard qui nous avait fait nous retrouver. Il a bien fallu lui dire que le hasard n'y était pour rien, que je l'avais cherché, que ça n'avait pas été bien difficile, qu'il m'avait suffi de retrouver sa famille et de l'attendre. Je ne lui ai pas dit que je l'épiais depuis plus d'une semaine, que je connaissais sa cabane cachée dans les fourrés, que je l'avais vu se laver à l'eau des fontaines Wallace, faire la queue aux maraudes des Restos du Cœur, à celle des secours catholiques ou populaires. C'est lui qui m'a raconté, sans honte ni regret. Si, un regret, un seul, qui le tuait lentement comme un poison. Il ne pouvait donner à ses enfants ce que tout père leur doit de donner. Il ne m'a rien demandé, bien sûr. On avait parlé du passé, raconté nos présents, mais comment envisager le futur avec quelqu'un qui n'en a pas? Pourtant, j'étais là pour ça. Je l'ai emmené chez le coiffeur, puis dans une boutique acheter des vêtements, des pompes qui ressemblaient à quelque chose. Je devais le rendre présentable, parce que même s'il était aussi digne que possible, il ressemblait quand même très précisément à ce qu'il était, un clochard. Il n'était pas question que je présente un clochard à madame. Je ne lui ai pas dit en quoi consistait le boulot. Ça devait rester entre nous. Ça ne regardait qu'eux. Une histoire entre adultes libres, consentants et exceptionnels. Je ne suis qu'un intermédiaire et je le resterai. On est arrivé avant la fin du jour. Madame nous attendait. Son sourire m'a ravi, comme il me ravit à chaque fois. Il était franc, direct, ouvert, brillant. Le sourire d'un enfant heureux capable d'oublier sa peine en un instant et de vivre pleinement une joie nouvelle. Elle l'accueillit, je l'ai laissé.
Asseyez-vous.
Je ne sais pas où, tant il y a de fauteuils, de canapés, de poufs, de coussins. Tant ils sont larges et profonds. Elle m'en désigne un d'un geste face aux baies vitrées. Derrière, le terrain descend en pente douce, puis plus forte, vers une vallée. La propriété n'a pas de limite visible. Il doit y avoir des clôtures plus loin, hors du regard, là où la prairie plonge. Je ne sais pas, j'imagine. Deux chiens jouent, libres. Je ne m'y frotterai pas. Je sais ce que Max a pu leur apprendre. De ce côté-là, madame ne risque rien.
Voulez-vous boire quelque chose ?
Elle est cordiale, simple, sympathique. Jolie aussi. Objectivement, bien faite, musclée, souple, à mon goût en tout cas, quand je goûtais encore ce genre de choses.
Du thé, du café, une bière ?
Restez lucide, surtout. Maître de moi. Je sais que je ne suis pas là sans raison. On n'en est qu'au préliminaire, la coutume, comme dans la brousse. Un café, c'est bien, c'est sobre, modeste. Elle va glisser une capsule dans un percolateur. Dehors, je vois Max lancer une balle au chien. Un berger allemand et un Saint-Hubert. De belles bêtes, fidèles, intelligentes, courageuses, féroces même, à l'occasion. Qui vous égorge n'importe quel bestiau d'un coup de mâchoire. N'importe quel homme aussi, pourvu qu'on leur demande. La truffe qu'ils viennent frotter sur la main de leur maître, en quête d'une caresse, est celle qu'ils plongeront dans le sang encore chaud de ceux qu'ils auront dépecé, homme ou bête. On ne peut pas leur reprocher. Ce qu'ils font, ils le font sans malice et sans haine. On les a créés pour ça, croisés, sélectionnés depuis des générations pour leur qualité de mordant, de force, de vitesse, d'odorat, d'obéissance. Pour le goût qu'ils ont à satisfaire un maître. On ne peut rien reprocher à un chien. On ne peut pas lui en vouloir. On ne peut pas le juger. On peut l'abattre, c'est tout.
Du lait, du sucre ?
Rien du tout, merci. Je l'aime noir et âcre, brûlant. Je ne sais pas très bien ce que je fais là. J'attends sans savoir ce que j'attends. Une proposition de travail, sans doute. Pas très légale, probablement. On propose rarement un travail normal à un gars comme moi. Dans ces conditions-là, je n'ai pas le profil d'un jardinier. Pas les compétences non plus. Max le sait.
Max m'a dit beaucoup de bien de vous.
Je pourrais en dire autant de lui. Plus même. Je ne dirai jamais assez ce que je lui dois. On s'est connus à Aubagne, au 1er régiment étranger en 96. J'arrivais de Sarajevo où je m'étais battu pendant 3 ans. Ici, la vie était douce, même pour un soldat. Max était mon sergent. C'est lui qui m'a appris à parler français. Il a fait de moi un légionnaire aussi. On a fait l'Afrique ensemble, le Congo, la Côte d'Ivoire, d'autres coins pourris. L'Afghanistan. J'ai quitté l'armée, je n'aurais pas dû. Je n'étais pas fait pour le bâtiment. Pas fait pour ce genre de vie. Ce n'était la faute de personne. Civil, on m'a proposé de mettre mes compétences en explosifs à contribution sur un coup sans problème. Il ne faut jamais faire confiance à un type qui pense qu'un coup est sans problème. Un coup sans problème, c'est un coup mal préparé. Des risques sous-évalués. J'ai pris 5 ans. J'en ai fait 3. Je suis sorti sans argent, sans boulot, avec un casier. C'est Max qui m'a tiré d'affaire. Déjà. Il avait quitté la Légion l'année d'avant. Il louait ses compétences à des dictateurs ou à ceux qui voulaient les renverser. Le plus souvent, on allait former des gars, on sécurisait des mines d'or ou de diamants dans des pays pas regardants. On se battait parfois contre des guérilleros en guenilles, défoncés, exploités par des seigneurs de guerre, planqués à Londres ou à Paris, à Bruxelles. On faisait ce qu'on était payé pour faire quelques semaines ou quelques mois, puis on rentrait claquer l'argent, puis on repartait. Après, ça a été la guerre d'Irak. Une autre paire de manches. Moche. On ne savait jamais contre qui on se battait. Un vieux, une femme, un gosse, n'importe qui, n'importe quoi pouvait vous péter à la gueule. Un frigo sur un tas d'ordures, une carcasse de voiture, un bout de mur, même un chien crevé. Ça ne rigolait plus. On tirait sur tout ce qui bougeait, uniquement parce que ça bougeait, et parfois sur ce qui ne bougeait pas. Justement parce que ça ne bougeait pas. C'était l'Irak. C'était la merde. Si Max n'avait pas été là, j'y serais encore. Couché sous un mètre de sable à Bassora.
Vous avez des enfants, je crois.
Max lui en avait dit plus que ce que je pensais. Est-ce qu'il lui avait dit que je n'avais pas été capable de les élever, de les nourrir, de leur apprendre la vie? Que je n'avais pas su faire ça? Que personne ne me l'avait appris? Que je n'étais pas capable de subvenir à leurs besoins élémentaires? Que c'était à leur mère qu'ils devaient tout? Lui avait-il dit qu'ils étaient la dernière chose qui me reliait à la vie et que je serais prêt à mourir pour eux?
Il paraît, oui, que les parents sont prêts à mourir pour leurs enfants. Je ne sais pas, je n'en ai pas eu. Je ne suis pas sûre que ma mère serait prête à mourir pour moi.
Elle sourit en le disant. Cynisme, amertume. Elle n'est plus là, elle est ailleurs, quelque part où personne n'est admis, au cimetière des souffrances anciennes où chaque tombe recèle une plaie mal fermée, suintante, une blessure qui ne guérira jamais et qui fait mal encore, une douleur d'enfant silencieuse, jamais dite, de celles qui font les mots qui résonnent toute une vie, qui font souffrir si longtemps qu'on en oublie qu'on souffre, celles qui font haïr.
Ce sont des mots où vous seriez réellement prêt à mourir pour eux, parce que c'est un peu facile, non? On dit ça parce qu'on sait qu'il faudrait des circonstances exceptionnelles, qu'il y a très peu de chances que ça arrive.
Non, on le sait, on le sent.
Si je vous proposais de mourir pour vos enfants, là, tout de suite, vous accepteriez? Max est toujours avec les chiens, qui lui font la fête. Heureux comme seuls les chiens peuvent l'être, les chiens et les enfants. Que ne reste-t-on enfant? Que ne sommes-nous chiens?
Les chiens ne se lassent jamais de ramener un bâton, de courir après le gibier non plus. Ils aiment ça, traquer, chasser, comme madame. Elle a chassé tous les gibiers, du plus petit au plus gros, au plus dangereux, à court, à l'affût, à l'approche, en battu, au fusil, à l'arc. Elle se fout des trophées, il n'y en a pas sur les murs. Elle aime l'action, chercher sa proie, la traquer, la trouver, la voir surgir, sentir le froid descendre le long du dos pendant que l'arme monte à la joue et que son œil aligne le guidon, le cran de mire et la cible. Elle en aime les bruits, celui de la meute, ses aboiements, les pattes qui s'enfoncent dans l'humus, son odeur mouillée, le cinglement des branches, les sabots dans la boue, les galops, les cris, les appels, l'écho des détonations au loin qui résonnent et rebondissent entre les arbres. Et le silence aussi, celui de l'affût, qui annonce que le jour ne sera plus très long à venir, que la brume va bleuir puis dorer dans les premiers rayons du soleil. Le premier chant d'oiseau, la première risée à la surface de l'eau, les premiers bruits subtils que n'entendent que ceux qui n'en font pas, l'attente, le souffle qu'on retient, les temps qui s'étirent, les muscles brûlants de froid, les sens explorant des dimensions inconnues, pénétrant des taillis impénétrables, les futaies, les fourrés. Puis le premier tir, les battements d'ailes affolées, la première nuée, tuée. Tuée? Je ne sais pas. C'est difficile d'imaginer qu'on puisse aimer tuer. Ça existe, je le sais, j'ai vu des hommes qui aimaient ça. Et c'est toujours un malaise, même à la guerre. D'ailleurs, ils s'en défendent. Je n'en ai pas croisé qui le revendiquaient, qui pouvaient affronter le regard de ceux qui les avaient vus jouir de ce qu'ils avaient fait. Pourtant, ils l'avaient fait. Ils avaient pris plaisir à tuer. Ils en avaient connu l'extase. Elle se voyait dans leurs yeux encore flous. On l'entendait dans leur souffle trop court. Mais pas elle, non. Elle aime chasser, c'est tout. C'est sa façon d'aimer la vie. Je l'ai vue affronter la charge d'un lion sans trembler, encaisser le recul des fusils à gros calibre, endurer le froid, le vent et la pluie, jusqu'à ce qu'un ours apparaisse et se dresse. Elle a tiré des sangliers, servi des cerfs à la dague. Elle les a suspendus à des branches, saignées, vidées,